greatest. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en live ici Valentin French et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café avec HumanSlink. On se retrouve tous les jours de la semaine à 11h pour favoriser le lien humain, l'entraide mais aussi la solidarité. En effet, le but de ce live et de HumanSlink est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Je vous salue à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Je vois que vous arrivez, ça me fait plaisir de vous voir. Il y a Lily qui est ici, salut Lily. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit like pour encourager si vous aimez tous les lives, toutes les pauses café qu'on fait tous les jours en cette période de confinement. Sur YouTube, c'est pareil, un petit pouce bleu pour nous encourager. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que comme je l'ai dit, en ce moment, période de confinement, on produit du contenu tous les jours de la semaine. Donc, n'hésitez pas à sélectionner aussi la petite clochette pour recevoir les notifications et être tenu au courant de tout ce qu'on fait. Il y a Williana aussi qui vient d'arriver. Coucou Williana. Dites-nous en commentaire, les amis, si d'où est-ce que vous nous suivez. Ici, pour ceux qui sont pas encore habitués, moi, je suis encore et toujours à Montréal. Et aujourd'hui, je reçois deux invités exceptionnels, deux êtres humains que j'ai hâte de vous présenter, qui sont en Guadeloupe et on va voir ça ensemble. Donc, le chat s'active, je vois ça. Bon, ben super, allons-y. Donc, première invitée d'aujourd'hui, c'est une femme. Elle explore les champs des possibles qui sont offerts par les nouveaux outils technologiques et qui relèvent donc, de la technologie de l'information, mais aussi du développement territorial. Et aujourd'hui, elle nous présentera un projet qui s'appelle Active SMO. Bonjour, Yasmine.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Très bien, très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Ben merci d'avoir répondu à l'invitation. Yasmine Ancelade, on t'avait reçu à la WIC, organisée par HumanSlink en novembre, et tu avais fait une conférence justement sur ce projet en particulier. Et aujourd'hui, ben, je te remercie d'être là parce qu'on a posé le sujet, repartir avant, comme avant ou pas. Est-ce qu'il y a des solutions énergétiques qui s'offrent à nous dans le monde, mais aussi sur les territoires caribéens? Donc, on va regarder ça ensemble. Deuxième invité aussi d'aujourd'hui, il était prof physique-chimie, mais il a aussi été chargé de mission énergie renouvelable à la région Guadeloupe pendant 3 ans. Il a fait son concours d'ingénieur territorial, puis d'ingénieur en chef territorial. Aujourd'hui, il est directeur audit prospective et projets transversaux à la communauté d'agglomération Riviera du Levant. C'est William. Oui, bonjour William, comment vas-tu?
Bonjour Valentin, bonjour Yasmine, bonjour tout le monde.
Ça fait plaisir de te voir. Toi aussi, merci d'avoir répondu présent. Je sais que tu as plein de meetings. Tu étais dans une communication juste avant, là.
On y était, mais la pause de 11h, c'est important.
C'est ça, petite pause café. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà équipé. Moi, j'ai mon mug Let's Create. Je sais que Yasmine, tu es quoi? Tu es
thé
ou café?
C'est le soleil.
Café, du coup, ça va être de l'eau.
Oui, William, il est à l'eau, c'est bon, c'est la meilleure boisson de toute façon. Je salue Chantal aussi qui nous dit « Hello, mes 971 préférés ». Chantal qui est habituée à cette pause café aussi, qui prend ce moment-là et qui est en France. Donc pour elle, c'est une pause de fin de journée. Il y a Williana sur Facebook qui nous dit « Coucou ». Non, mais c'est super. Alors, dites-moi, on va commencer par Yasmine. Comment tu le vis, toi, cette période de confinement, personnellement, mais aussi peut-être professionnellement?
Bah, écoute, cette période de confinement, pour moi, c'est vraiment déroulé en deux temps. Un premier temps très personnel, c'était ouais. Le temps du début, à pas trop savoir à quoi on était exposé, combien de temps localement.
Bon,
et puis à gérer les rapatriements des proches qui étaient aussi un peu partout dans le monde. Donc voilà, il y avait un peu de préoccupations sur le personnel, puis un peu comme tout le monde, hein, quand on fait des courses une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours, est-ce qu'on désinfecte tout, retrouver du temps passé sur la logistique alimentaire, etc. Donc voilà, il y avait un temps d'adaptation. Et c'est puis vrai. Là, depuis 15 jours, ouais, à peu près 15 jours, un peu plus, le professionnel a bien repris le dessus, puisque voilà, avec l'équipe avec qui je travaille sur ce projet, avec des personnes qui sont aussi basées en région parisienne, on a été amené à répondre à des dossiers d'appel à projets européens. Okay. Et donc, ça peut tout à fait se gérer dans le cadre du confinement à distance, isolé. Et voilà, et donc on a été bien, bien impliqués dans ce type de projet. Et ma foi, les conditions étaient plutôt pas mal, en fait.
C'est vrai que bon, le confinement, donc finalement, on l'a vu, a duré. Bon, là, on va bientôt déconfiner en France. À Montréal aussi, ça va arriver dans pas trop longtemps, je pense. Quelque part, c'est la nouvelle réalité. Donc, le travail reprend le dessus. Puis, c'est pas le travail pour le travail. Je sais que tu es impliqué sur des projets qui te passionnent. Et tu es aussi très orienté sur, en ce moment, chargé de projet. Tu as une grande carrière passionnante où tu as géré des projets, plusieurs projets. Et en ce moment, tu es beaucoup sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pas que, tout en créant aussi, il y a une notion de comment apporter de la valeur sur un territoire.
Oui, absolument. C'est la richesse du projet sur lequel je travaille en ce moment, qui a une approche très complète des enjeux du réchauffement climatique et des solutions notamment qu'on développe pour favoriser des réponses positives autour de l'économie circulaire. Et donc, c'est un projet dans lequel on va pouvoir adapter des solutions sur un territoire en fonction des ressources qui peuvent être recyclées, mobilisées pour produire, en utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie principale pour faire fonctionner une unité industrielle et ouais. En produisant des produits décarbonés, en fait, hein, pour un peu parler le langage d'aujourd'hui, au sens où ce sont des produits qui permettent de séquestrer du CO2 qui serait reparti dans l'atmosphère et qui aurait aggravé le réchauffement climatique, et aussi en produisant de l'énergie propre, au sens non émettrice, là aussi, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a vraiment une approche très complète, et dans le cadre de ces projets européens, on a répondu récemment à un projet sur les îles de l'Europe au sens large, en mettant en parallèle comment est-ce qu'on peut travailler avec le contexte Guadeloupe et comment on peut travailler en parallèle avec la même machine dans le contexte d'île de Croatie.
Et donc, il y a vraiment une approche…
Et des besoins, voilà.
Il y a une approche systémique, en fait, quelque part, où c'est un projet, tu nous en parleras. On va prendre le temps d'aller plus en profondeur dans ça. Mais je trouve passionnant l'idée d'avoir une approche qui va prendre en compte les réalités et l'urgence en fait quant au climat et à l'environnement, le réchauffement climatique, mais sans oublier en fait que toutes les interactions qui existent et comment l'intégration de nouveaux projets peut apporter de la valeur et ne pas s'inscrire dans une modification et une régression en fait de pas priver quelque part, qu'il n'y ait pas de compromis tant que ça. Et tu nous en parleras, je sais qu'il y a des questions, débats là-dedans. William, toi, tu as été chargé de mission énergie renouvelable à la région Guadeloupe pendant 3 ans. Et aujourd'hui, tu es directeur audit prospective. Donc, audit prospective, est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce mot qu'on entend de plus en plus, la prospective?
Alors, donc effectivement, donc auparavant, j'étais chargé de mission énergie renouvelable et aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai des fonctions qui sont presque un peu à l'opposé, mais en tout cas beaucoup moins techniques et un peu plus, pas administratives, mais donc l'audit, c'est le contrôle et le suivi d'activité au sein de la structure dans laquelle je travaille. C'est le pilotage de l'administration, de l'organisation de l'administration et des services, des activités des services. Et il y a aussi une partie sur l'évaluation de ce qu'on appelle, nous, l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce que les politiques publiques qu'on a rendues, qu'elles soient sectorielles, donc en matière d'eau, collecte des déchets, environnement et toutes les compétences que communauté d'agglomération gère. Est-ce que ce sont des politiques publiques qui ont répondu aux attentes des citoyens, que ce soit en termes de coûts, en termes de besoins, en termes de TP équivalent temps plein qui ont été mobilisés pour pouvoir mener à bien la politique publique. Donc voilà. Et la prospective, c'est essayer d'anticiper. Donc c'est beaucoup de récolte et de recueil de données. Donc par exemple, pour l'énergie, on va venir un peu au sujet du jour. Ça va être suivre les tendances en termes de maîtrise de la demande d'énergie. Est-ce que les Guadeloupéens ont plus consommé ou pas? Je vais aller analyser ces chiffres-là en faisant un focus sur mon territoire. Je dis mon territoire, le territoire sur lequel je travaille actuellement. Donc, c'est le Gosier. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par là. La communauté de l'agglomération Riviera du Levant, c'est le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade.
OK. Donc, voilà.
Étudier ces chiffres-là d'évolution démographique, de consommation énergétique, mais ça peut être aussi création d'entreprise ou d'autres chiffres, afin d'essayer de définir des tendances pour adapter au mieux les politiques publiques que la structure va mener.
D'accord.
C'est l'objectif de la prospective.
Je trouve ça intéressant qu'il y ait cet aspect d'audit d'une part et de prospective d'autre part. Il y a un caractère qui est très proactif dans ça, parce que effectivement l'entrepreneuriat et les politiques publiques il y a une synergie qui doit exister quelque part. Sinon des projets comme ce que Yasmine va nous présenter plus en détail, le projet SMO ne pourrait pas voir le jour, enfin on pourrait être ralenti en tout cas. Donc c'est comment
ma casquette de chargé de mission énergie, enfin mon ancienne casquette du coup.
Ouais, c'est ça.
J'étais avec Yacine de Courmont justement à nous à la région Guadeloupe, parce que là je le fais pas actuellement dans ma structure actuelle, parce que c'est une autre structure, c'est d'autres compétences à gérer.
Ton expertise, ton expérience.
La région Guadeloupe, on accompagne de nombreux projets, comme les projets de Yasmine, pour parler d'énergie en matière de maîtrise de la demande d'énergie. Donc, d'amélioration d'efficacité énergétique du patrimoine bâti, par exemple, mais aussi en termes de développement des énergies renouvelables. Donc, ça passe par le lancement d'appels à projets pour financer les centrales solaires en photovoltaïque. Ça passe par des appels à projets pour encourager à la construction de bâtiments à énergie positive, ou en tout cas des bâtiments performants. L'accompagnement de différents secteurs, comme le secteur industriel ou le secteur des transports, pour aller vers un peu plus une consommation énergétique plus vertueuse. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus par la suite, mais globalement, ce qu'on faisait au service énergie de la région.
Ok, super. C'est effectivement, oui, William, tu es quelqu'un, je sais, on a parlé un petit peu. En fait, pour la petite histoire, en fait, William et moi, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je pense que ça fait une dizaine d'années. C'est la dernière fois que William et moi on s'était vu, c'était l'année du bac. Donc c'était en 2010 et on était en Guadeloupe tous les deux au lycée et tout, et donc c'est très intéressant de voir le chemin que chacun en parcourt. Et puis sur ce live on avait reçu aussi par un heureux hasard, j'avais repris contact avec Alvin Arthur, qui est aussi quelqu'un de promo 2010 du bac de Guadeloupe quoi, et qui est aujourd'hui aux Pays-Bas. Bon, si vous êtes intéressé à ça, il y a une pause café là-dessus. Bref. Revenons, Yasmine, est-ce que tu peux nous présenter justement ce projet dont on est en train de parler et dans lequel tu es personnellement impliqué depuis un moment? Le projet SMO, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, SMO, déjà, ça veut dire solaire micro-ondes, est un peu le moteur de production énergétique de cet outil. Et donc, en fait, il s'agit d'une unité industrielle mobile, compacte, puisque ce sont des unités qui peuvent être multipliées pour produire en fonction des ressources dont on dispose et des objectifs de production dont on a. Donc, c'est un module qui tient dans un conteneur. Donc, on voit à l'image ce conteneur et le module. Et cette usine qui est alimentée donc essentiellement à l'énergie solaire et à la cogénération énergétique qui est induite par son fonctionnement, va permettre de produire d'un côté Des choses qu'on fabrique généralement à base d'énergie fossile. Donc, du coup, on va produire des produits qui sont déjà utilisés, mais on va les produire en séquestrant du CO2 et sans émettre de CO2. Donc, on va produire des produits propres. Et en même temps, on va produire différentes sortes d'énergie verte. Donc, je dis différentes sortes parce que en fonction des besoins du territoire et des paramètres qu'on va utiliser, on va pouvoir produire de l'électricité en turbinant des gaz qui sont produits dans les différentes réactions. Si on veut, on peut aussi produire de l'hydrogène. Et derrière, on peut éventuellement utiliser cet hydrogène pour venir enrichir des biocarburants et du coup produire des carburants qui soient moins polluants. Donc, ça fait un peu partie d'une gamme de produits qui sont des produits qui existent, mais qu'on va produire avec un processus industriel décarboné. Et donc, ça, c'est vraiment le mode de fabrication qui change l'approche de production. Et en fait, pour faire ces productions, on va utiliser… on va recycler, on va transformer de la matière existante, donc essentiellement de la biomasse non destinée à l'alimentation. Oui. Donc sur le cas de la Guadeloupe, on peut tout à fait envisager de traiter les sargasses, par exemple, donc avoir une vraie valorisation de ce qui constitue quand il y a des vagues d'arrivage, une nuisance. Ben là, on va en faire quelque chose qui a de la valeur. On peut utiliser également les déchets de biomasse de l'agriculture, mais en fonction de ce qu'on veut produire, on peut également utiliser toutes sortes de déchets carbonés au sens des déchets domestiques ou des bouts d'assainissement. Alors, et donc, en fonction de ces éléments-là qu'on va faire rentrer et qui ont peu de valeur aujourd'hui pour la société, on va produire des choses qui, elles, par contre, ont beaucoup de valeur. Et pour faire tout ça, on va utiliser une énergie renouvelable essentiellement issue du solaire, ce qui fait qu'on a un cycle de production qui offre des coûts de production très compétitifs. Donc, on va produire des produits propres à coût compétitif en utilisant une source d'énergie décarbonée. Donc, c'est vraiment la force et le cycle de ce projet qui en font un allié des territoires pour répondre à différentes problématiques du développement durable.
Ok, alors, si j'ai bien compris, en input, c'est-à-dire en intrant dans ce cycle-là, on met principalement des déchets. Ça peut être tu as parlé de sargasses, donc les algues nuisibles qu'on reçoit sur le littoral en Guadeloupe, mais dans la Caraïbe en général. Tu parles aussi de biomasse non alimentaire. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ?
Alors, je tiens à préciser parce que dans différents pays du monde, on parle par exemple de biocarburants produits à base de canne à sucre au Brésil et qui entraînent de la déforestation et qui font que du coup, on va détourner des productions alimentaires qui vont nourrir les gens pour produire des carburants. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment d'être plus dans une boucle de recyclage plutôt que d'aller créer une exploitation ailleurs pour apporter des solutions. Donc, on est vraiment dans cette logique où, selon les territoires où on va s'implanter, on va explorer les gisements de recyclage. On est vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Et je parlais tout à l'heure de développer ce projet en Croatie. Et en Croatie, on va utiliser les résidus d'olives issus de la production d'huile d'olive. Parce que là aussi, c'est une matière carbonée riche qui n'a pas forcément un usage une fois qu'on a fini de les exploiter pour fabriquer les huiles. Ben, nous, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait valoriser. Et quand je parlais de produits propres qui existent par ailleurs, donc je voulais parler notamment de charbon actif. Donc, le charbon actif, plus, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui et depuis la nuit des temps pour dépolluer l'eau, l'air, les sols, et donc qui sont de plus en plus utilisés dans le monde parce que y a des préoccupations de santé sur la qualité de l'eau, de l'air, des sols. Et ces produits-là, aujourd'hui, sont majoritairement produits soit à base de sources carrément fossiles, comme la houille, par exemple, pour le charbon actif, soit en utilisant énormément d'énergie fossile pour les produire. Et nous, on va les produire en réutilisant des résidus carbonés, de l'énergie solaire, et donc on va produire ces produits décarbonés et qui, en plus, sont des produits qui séquestrent du CO2, donc empêchent de faire repartir les émissions dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est ce type de cycle vraiment vertueux et qui participe au développement des territoires parce qu'on va venir apporter des solutions aux gens qui produisent ces déchets de biomasse, donc les agriculteurs, etc. Donc on va leur offrir des solutions pour se débarrasser de leurs déchets. Pour les sargasses, on va offrir des solutions à la fois aux collectivités territoriales et à des activités de pêche qui peuvent être mobilisées pour aller les collecter en mer plutôt que de laisser les échouages arriver sur site. Dans le cadre de l'huile d'olive en Croatie, on va aussi apporter des solutions aux agriculteurs. Et derrière, on va avoir un processus industriel localisé, parce que c'est aussi la force de ces usines, c'est que, comme je le disais au départ, ce sont des modules qui tiennent dans des conteneurs. Et donc, on peut dimensionner les usines en fonction des gisements à exploiter et des volumes de production qu'on pourrait exploiter et du coup, avoir des sites qui sont localisés au plus près des besoins.
Donc, okay, j'entends. Et du coup, en fonction de la position géographique, on va utiliser ce qui est à disposition.
Une grosse usine en Guadeloupe et qui va devoir exporter et du coup utiliser de la pollution pour faire partir, on va pouvoir décentraliser les sites de production.
William, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi, le fait d'avoir quelque chose de décentralisé et qui peut quelque part s'adapter à ce qui est disponible dans l'environnement environnant?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me parle. C'est qu'aujourd'hui, on doit être dans une logique d'économie circulaire afin de s'engager dans le développement durable, de contribuer à chacun à notre façon. Donc, que ce soit au niveau particulier, au niveau de chaque citoyen, mais aussi au niveau des initiatives privées, d'entreprises, ou plus grandes ou des collectivités. Donc, en fait, que chacun puisse porter sa part à l'édifice dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ça pour dire en gros aussi que c'est vrai que, pour revenir un peu sur la Guadeloupe, on est un territoire avec beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources naturelles, le vent, le soleil.
Le soleil, mais oui. Voilà. En plus, le solaire ici, c'est l'énergie principale qui est utilisée pour ce... C'est comme un four à pyrolyse, en fait.
Alors, c'est exactement ça. La méthode industrielle, c'est de la pyrolyse et de la gazéification de biomasse, mais alimentée à l'énergie solaire. Donc, ce sont des technologies qui existent, mais qui, en fait, sont très consommatrices d'énergie. Donc, dans la pyrolyse et la gazéification traditionnelle, il va falloir utiliser beaucoup d'énergie de sources fossiles souvent. Mmh. Alors que nous, on va directement utiliser l'énergie solaire pour alimenter le processus industriel. Alors, je précise que c'est un projet dont le prototype a été présenté à la COP22 au Maroc en 2016. Et qui a gagné le premier prix de la Global Clean Tech. Donc, on a traité les déchets de la COP22 en démonstration. Et donc, la valeur de ce projet a déjà été reconnue au stade de prototype. Et là, pour nous, l'idée aujourd'hui, c'est de développer les premiers sites d'exploitation commerciale et notamment d'avoir un premier site en Guadeloupe. Puisque l'inventeur de cette machine est guadeloupéen. Oui, voilà, il faut le dire.
100%. Est-ce que tu peux rappeler son nom et son prénom pour qu'on puisse...
Oui, donc il s'appelle Nicolas Hugolin et donc avec l'équipe derrière qui est constituée, il a développé depuis une dizaine d'années grande machine qui peut apporter énormément de solutions en Guadeloupe, mais aussi à tous les territoires qui ont une exposition solaire suffisante. Donc, la gamme est quand même assez large et va plutôt s'élargir dans la tendance actuelle. Des ressources carbonées à traiter, donc en général, il y en a toujours liées à l'activité humaine et à l'activité naturelle. Et derrière, bah, l'énergie, on en aura toujours besoin. Maintenant, si on a des sources d'énergie décarbonées et non émettrices de gaz à effet de serre, bah, voilà, nous, on apporte ce type de solution.
Je trouve ça fabuleux parce que quelque part, on utilise de l'énergie gratuite, de l'énergie abondante qui est l'énergie solaire, qu'on peut transformer de la biomasse qui est déjà existante. Donc, Yacine, tu as parlé de sargasse, mais il y a aussi la bagasse qu'on a beaucoup en Guadeloupe, par exemple.
Absolument, c'est tout à fait une option.
Et en plus, on pourrait même produire de l'hydrogène. Pardon, William ?
Je voulais dire aussi une autre option aussi qui n'a pas encore été explorée chez nous en Guadeloupe, c'est comme ça une idée gratuite. On parle souvent des sols chlordéconés qui sont inexploitables. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi pas planter de la patate douce, pas comestible bien sûr, hein, parce que c'est un pouvoir calorifique assez important pour pouvoir l'utiliser en biomasse derrière pour produire aussi de l'énergie.
Alors, pardon, je te laisse finir.
Pour finir en disant que, ben, en gros, on a plein de ressources et on est un territoire, pas que la Guadeloupe, hein, mais on a plein d'opportunités pour pouvoir changer les choses. Et aussi, par exemple, aujourd'hui, on sait que l'industrie de la canne, c'est une industrie qui est assez subventionnée, parfois même sous perfusion. Et c'est proposé aussi aux planteurs, aux agriculteurs, de passer une partie de leur canne sucrière à une canne plus fibreuse pour faire de la biomasse. Et c'est vrai que c'est des choses c'est assez délicat pour pouvoir... comment on va implémenter ces changements-là, mais c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense aujourd'hui.
Okay. Alors, c'est très bien que tu évoques ce sujet parce que nous, avec ce projet, on fait partie d'un consortium qui a été lauréat avec l'Agence nationale de la recherche en France dans le cadre des recherches sur la sargasse. Donc, ça a été présenté à Sargexpo en Guadeloupe l'année dernière. Donc, on fait partie d'un consortium qui va fabriquer des charbons actifs à partir de la sargasse et en partenariat avec l'université et l'INRA et d'autres organismes de recherche, on va fabriquer en fait des pièges à chlordécone. Donc, on va utiliser ces charbons pour déchlordéconner nos sols. Parce que les capacités de porosité du charbon actif, donc ils peuvent absorber énormément d'impuretés et de polluants, vont attirer justement ces molécules de chlordécone et qui vont se capter sur ces charbons au lieu de venir contaminer les produits. Donc là aussi, on va pouvoir apporter des solutions non polluantes, contrairement à une certaine quantité d'engrais, pour résoudre ces questions de pollution à la carbone.
Ce que j'entends, c'est que ce serait même régénératif quelque part. C'est-à-dire que absolument, le charbon actif est un... C'est assez intéressant parce que... Enfin, c'est plus que ça. C'est fascinant parce que c'est un système dont on est en train de parler qui a... on utilise le déchet quelque part de... On a un ensemble de processus et ça nous sort de la bagasse, quelque chose qu'on... Peu de gens veulent, où on utilise des déchets et on va utiliser ça comme input, comme intrant dans ce système qui va nous donner les déchets du système, sont des choses qui nous servent à nouveau. Et je me posais la question justement de comment on peut utiliser ce charbon actif. Et là, si on l'adapte à la situation du chlordécone en Guadeloupe, tu es en train de dire, Yasmine, que le charbon actif peut être utilisé par ses caractéristiques et sa porosité, etc., pour potentiellement nettoyer les sols de Guadeloupe ?
Absolument. Et en fait, dans ce qu'on va produire, donc les produits carbonés, on va produire à la fois des charbons actifs et des biochars, donc qui sont assez proches en termes de produits à la base. Après, c'est les niveaux de finition qui vont déterminer si on est sur du biochar ou du charbon actif. Et le biochar, par exemple…
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le biochar?
Alors, le biochar, pareil, c'est un concentré carboné, mais qui a aussi des propriétés de porosité. C'est quelque chose qui était utilisé déjà du temps des civilisations précolombiennes pour régénérer les sols. Et qui, depuis une quinzaine d'années, fait l'objet de beaucoup d'études dans, si tu veux, l'environnement plus occidental, pour deux raisons. Un, parce que il y a des propriétés pour l'agriculture, pour régénérer les sols et les dépolluer, déjà mieux filtrer les eaux, mais aussi parce que quand on produit du biochar et en fonction de la méthode utilisée, on va séquestrer du CO2. Alors là, je fais vite une petite parenthèse sur le cycle normal de la photosynthèse. Quand les plantes grandissent, elles absorbent du CO2 atmosphérique, et puis quand elles meurent, elles relâchent ce CO2. Donc, si on vient utiliser ces plantes quand elles sont en train de mourir et qu'on vient capter leur CO2 et le fixer dans des produits comme le biochar ou le charbon actif, c'est autant de CO2 qui ne repart pas, en tout cas pas tout de suite, dans l'atmosphère et qui vient compenser les émissions de CO2 qu'on a créées artificiellement en utilisant des sources de CO2 fossiles. Donc, c'est en ce sens que les biochars et charbons actifs, s'ils sont fabriqués à partir de sources de biomasse notamment, vont être des outils de capture et de séquestration de CO2 et vont participer à limiter les émissions de CO2 atmosphériques.
Très bien, j'entends. Donc, je prends un commentaire de…
a pris plus de relief parce que à la fois, il y a des bienfaits pour les sols et à la fois, ça apporte une solution de séquestration de gaz à effet de serre.
Effectivement. Et oui, j'entends, c'est une problématique, enfin, c'est une approche à ce problème de pouvoir recapturer, en fait, du carbone d'une manière ou d'une autre. Il y a Yolande Casimiro qui dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
C'est bien
connu, mais c'est un fait, c'est vrai. Il y a deux questions de Chantal ici sur Facebook. La première, c'est, est-ce qu'on peut donc imaginer que les bananiers qui poussent sur les sols pollués en Guadeloupe, par le chlordécone notamment, pourrait être utilisé en biomasse?
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Comme je disais, le principe de la machine, c'est que on va pouvoir traiter tout type de déchets carbonés. Donc, sur le principe, tout type de déchets carbonés et tout type de biomasse, notamment les biomasses résiduelles, j'insiste que l'idée n'est pas d'aller concurrencer les productions alimentaires, peuvent être traitées. Après, en fonction des caractéristiques physiques et chimiques de la biomasse en entrée, on va pouvoir produire tel ou tel type de produits en sortie. Donc, j'explique. Si on utilise des déchets domestiques, par exemple, avec une teneur limitée, une teneur en carbone plus limitée, on va plus s'orienter vers des productions de syngas qu'on va turbiner pour produire de l'électricité ou de l'hydrogène. Si on utilise une matière entrante de biomasse de haute qualité à haute teneur en carbone, donc la sargasse, les coques de noix de coco, etc., on va pouvoir produire des charbons de qualité et orienter la production plus pour les charbons. Donc oui, on peut traiter tout type de
biomasse. C'est ça que j'entends. Quelque part, ça peut être adapté.
Voilà, c'est ça.
Parce que je pense pas que… Je sais pas si les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont… en tout cas, moi, je suis pas calé sur la technique à ce niveau-là. Donc, ce que je retiens et je note, c'est une machine qui peut être déplacée. C'est pas une usine qui doit être installée et qui est fixe. Il y a une mobilité. Et en fonction de la qualité des intrants, donc de la matière première qu'on va utiliser, on peut aussi façonner différents produits à la sortie.
C'est bien ça. Je vais juste nuancer sur la mobilité, c'est-à-dire que on va pas se mettre un jour à Gosier, un jour à Bémao, un jour, etc. C'est-à-dire que sur un territoire, on va avoir un lieu d'implantation parce que faudra quand même des silos de stockage, il y a des bien circulations sûr. Organisées, etc. En revanche, c'est un processus qui est facilement dimensionnable. Donc, on peut rajouter plusieurs modules de production. On peut diversifier les types de production par ligne de production. Ça, oui, c'est adaptable. Et c'est okay, facile j'entends. À aller implanter dans un territoire parce que vous allez faire venir un conteneur avec tout le processus de production et l'installer là où vous voulez produire. Donc, ça rend, c'est adaptable, modulable et compact. Donc, voilà, ça facilite l'implantation, effectivement.
Ouais, c'est top.
C'est aussi relativement peu consommateur d'espace. Pour illustrer, si vous voulez avoir une production d'énergie solaire à haute capacité, bah, il va falloir déployer des champs de panneaux photovoltaïques. Là, on reste quand même sur des choses assez compactes pour avoir un rendement énergétique assez important.
Yasmine, ça me fait plaisir de te voir parler de ça avec passion et c'est passionné et c'est passionnant. Comment ça se fait que… d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire, je sais qu'il y en a plusieurs, vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette initiative. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on parle d'un projet qui a pour nom le SMO et qui, je simplifie au maximum, Yasmine a déjà expliqué plus en détail. Matière première, on utilise globalement des déchets, ça peut être de la sargasse, ça peut être de la bagasse, ça peut être d'autres déchets. On utilise l'énergie solaire sur un concept de four à pyrolyse et ensuite en sortant, on va avoir du charbon actif ou même de l'hydrogène qui peut être utilisé de différentes manières. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, William, qu'est-ce que tu en penses et peut-être aussi, comment on pourrait faire pour donner une chance de réalisation de ce type de projet ou spécifiquement de ce produit?
Alors, c'est vrai que du coup, en tant qu'ancien chargé de mission d'énergie renouvelable à la rive en Guadeloupe, nous, ces initiatives de ce type, on essaie toujours, dans la mesure du possible, de pouvoir accompagner les porteurs de projets. Après, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter pour le financement, c'est-à-dire que les financements privés, il y a des règles de réglementation européenne à respecter pour avoir des fonds, des fonds européens, donc le FEDER généralement, fonds européens de développement régional. Et on se calque pour donner aussi des subventions régionales sur ces fameux régimes d'aide d'État. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais les aides de minimis, des aides spécifiques pour des projets environnementaux et énergétiques, etc., etc. Il y a un panel, la réglementation des aides d'État, c'est un pavé qui fait ça de cette taille-là. Hein. Donc, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce type d'initiative, ça va dans le bon sens parce que surtout dans des territoires insulaires, je vous parlais globalement des territoires insulaires, ce sont des territoires du coup qui, par définition, sont exigus et où l'emprise foncière n'est pas extensible. Et donc, du coup, c'est vrai que, par exemple, nous, à la région, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la région, on a une habilitation spéciale, une habilitation énergie pour pouvoir donner un avis sur des projets éoliens et photovoltaïques au sol, des projets photovoltaïques au sol, qui se développent sur le territoire. Pourquoi ? Pour avoir un droit de regard sur la politique agricole et l'emprise foncière des projets, en fait. C'est-à-dire que souvent…
Okay, c'est un droit de regard ou c'est un avis ou c'est une évaluation ? Là, ce que j'entends, c'est que tu parles sur des territoires insulaires où l'espace est limité, la région pour des solutions utilisant le vent ou le soleil au sol, c'est vous intervenez, mais c'est de quelle manière?
Alors, on intervient dans le sens où le porteur de projet, généralement, c'est privé, la région ne porte pas de projet en maîtrise d'ouvrage, comme on dit, de création de solaire photovoltaïque au sol ou des projets éoliens. Mais plus, ça va être du coup un avis donné, on va dire réglementaire, ça passe par une commission, la commission photovoltaïque éolien, qui est convoquée à peu près une fois par an. Enfin, ça dépend de s'il y a des appels d'offres de l'ACRE, c'est la commission de régulation de l'énergie, qui lance des appels d'offres généralement une fois par an, qui réglemente aussi les tarifs d'achat et de revente de l'électricité. Et notamment de l'électricité produite par du solaire photovoltaïque. Mmh. Et donc voilà, la région donne son avis. Est-ce que, comme les autres organismes de l'État, hein, comme la CDPNAF ou la DAF, la direction de l'alimentation, l'agriculture et la forêt, enfin, il y a tout un tas de... C'est un peu pour un porteur de projet éolien et photovoltaïque au sol, c'est le parcours du combattant pour pouvoir développer son projet. C'est généralement 4 à 5 ans pour que le projet puisse se mettre en
place. Et donc, c'est dommage.
C'est dommage, mais après aussi, c'est une manière de s'assurer que, par exemple, quand la région donne un avis sur, c'est pas que sur l'emprise foncière, en fait, mais c'est des choses bêtes. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué pour ma première commission photovoltaïque éolienne. C'est là où j'ai trouvé que c'était pertinent. On invite un scientifique du CSRPN. Excusez-moi, je donne le site, mais j'ai oublié ce qu'il veut dire exactement. Et en fait, qui nous fait remarquer que c'est un site où il y a de nombreux chiroptères et que les éoliennes, ben, en soi, ça peut perturber dans la biodiversité ces fameux chiroptères. C'est des choses comme ça, ou sur ça peut être sur des parcelles agricoles, ou du coup demain un exploitant ne peut plus exploiter le terrain parce que il y aura des éoliennes
ce que j'entends, c'est que bon, effectivement, la région a ce devoir quelque part de penser à ce niveau macro de la communauté. Bon, j'ai pas particulièrement envie de rentrer dans le débat. Est-ce que ça va assez vite ou pas, ou comment la région fonctionne? Cependant,
c'est pas que la région pour le coup. Hein. La communauté, c'est un avis. La région, lorsqu'on a décidé de faire la commission, ça va très très vite. Et jusqu'à récemment, je devrais dire ça, c'était un avis qui était assez consultatif et on a dû changer la délibération pour que l'avis puisse avoir, comment dire, un vrai poids. C'est-à-dire que, en gros, ce qui comptait réellement, c'est l'avis de l'État, la DEAL, de la préfecture.
Est-ce que toi, William, tu peux parler de l'énergie en Guadeloupe? Parce que je sais que le kilowatt aujourd'hui coûte très cher. Mmh. Et je crois que, en fait, c'est quelque chose qui est assez répandu en Guadeloupe, on le sait souvent, c'est pour chaque kilowattheure que EDF produit, la Société d'électricité de France perd de l'argent. Il y a une obligation de continuité territoriale, et donc en fait que le coût de l'électricité en Guadeloupe doit être le même que le coût de l'électricité en France. Or en France, c'est de l'énergie nucléaire, et en Guadeloupe, je crois que ce sont des génératrices au fioul.
Au fioul, exactement. Non, mais tu maîtrises le sujet, j'ai presque rien à ajouter dessus. Hein. C'est exactement ça, en fait. Si vous regardez sur votre facture EDF, il y a la fameuse CSPE qui permet, en fait, de compenser, pour nous, les Guadeloupéens, en Guadeloupe, de compenser le prix de production de notre électricité qui coûte. Enfin, en gros, l'électricité qu'on paie coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paie, en fait. Voilà. L'électricité produite coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paie.
Donc, le consommateur, donc nous tous en Guadeloupe, qui dès qu'on allume une ampoule ou notre réfrigérateur, notre climatiseur, etc., va consommer un kilowatt qu'on va payer un certain prix, mais qui ne reflète pas du tout la réalité de production.
Okay. Bah, économique en tout cas. Mais après…
Ouais, puis même environnemental du coup.
Même environnemental aussi du coup. Et ce qu'il faut savoir, bon, ça c'est des choix après au niveau de l'État. La centrale de Jarry, si je ne m'abuse, elle date de 2015. Enfin, elle a été rénovée. Du coup, elle est toute récente. Donc du coup, on est parti au moins pour une 20 ans, 30 ans d'exploitation. Alors que l'objectif, et c'est écrit dans la programmation pluriannuelle énergétique de la Guadeloupe, c'est d'arriver à l'autonomie énergétique d'ici 2030.
Pour le territoire?
Pour le territoire. Pour
le territoire de Guadeloupe.
Sur le web, voilà. Pour 2000.
Ah oui.
Pour l'instant, les énergies renouvelables en Guadeloupe, c'est moins de 10%.
Eh ouais.
C'est 20%.
Pardon?
C'est 20% du...
Déjà? Ok.
Oui,
c'est ce que j'ai lu dans le rapport de l'OREC de 2018, c'est pour ça.
On aurait progressé sur les deux dernières années alors.
Depuis l'année dernière, c'est 20%, surtout grâce à la géothermie. Depuis la centrale géothermique de Gouillante a été rachetée par, sur la publicité Ormat, Du coup, ils ont développé des capacités de production. Et en fait, après, c'est un chiffre, c'est-à-dire que sur le mix électrique, hein, c'est vraiment la consommation d'électricité. Hein, il y a 20% d'énergie renouvelable. Mais peut-être sur la consommation totale, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis consommation totale, c'est consommation d'électricité, mais aussi consommation des transports, consommation de fuel et de ce qui va avec. Là, effectivement, on est à un peu… Enfin, les énergies renouvelables, du coup, représentent un peu plus de 10%.
C'est ce rapport-là, oui. Effectivement.
Et donc, je voulais juste terminer en disant que souvent, on parle d'autonomie ou d'indépendance pour plein de choses, hein. Donc, pour l'énergie, aussi au niveau institutionnel, avec. Mais l'autonomie, ce n'est pas forcément l'indépendance. Bon, et là, je reviens sur le côté énergie. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la région se donne comme objectif l'autonomie énergétique d'ici 2030, c'est-à-dire que, en gros, on puisse produire, enfin, on ne sera pas forcément indépendant, énergétiquement parlant. Parce que demain, si on a de la biomasse qui doit venir d'ailleurs, quand on va la brûler, ça sera considéré comme une énergie renouvelable. Mais c'est-à-dire que demain, si le bateau n'arrive pas, on ne peut pas utiliser cette biomasse.
Alors, est-ce que c'est d'où l'intérêt justement d'utiliser, de penser voilà, local et de s'adapter au territoire et aux ressources qui sont déjà présentes.
Et organiser les gisements locaux, en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce que, en soi, la région essaie d'organiser aussi. Je vous invite à lire là, parce que c'est accessible, mais sur le site Guadeloupe Énergie, c'est un site que la région Guadeloupe a développé, le service énergie, où vous allez retrouver les principaux chiffres de l'OREC, les publications de l'OREC. C'est l'Observatoire régional du climat dont on est partenaire avec l'ADEME, l'ADEA, je ne sais plus les autres partenaires, Synergie aussi, j'imagine. Et je vous invite à lire la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est vraiment la Bible et le document cadre de la politique énergétique qui est fixée par la région. C'est un document officiel qui a été publié au journal officiel et où tous les projets qui doivent se faire dans les années à venir sont intégrés, que ce soit en matière de développement de biomasse, en matière de développement éolien, en matière de travaux sur le réseau électrique. Parce qu'une des problématiques aussi, c'est-à-dire que en soi, on aurait pu être déjà beaucoup plus loin sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire. On a une problématique réseau aussi, en fait. C'est que... Cette problématique, c'est que généralement, ce sont des énergies intermittentes. Le solaire, l'éolien. Okay. Nous sommes le solaire et l'éolien. Et donc, du coup, on peut avoir des soucis de stabilité de réseau. Si, d'un coup, il y a trop d'énergie renouvelable dans le réseau et que, d'un coup, par exemple, si c'est une journée où il n'y aurait pas de vent ou un peu moins de soleil parce qu'il a plu, ça fait que ça crée des soucis sur le réseau. Enfin, ça crée des soucis techniques pour EDF, pour gérer le réseau. Donc, s'il y a un gros enjeu de modernisation de notre réseau électrique, par exemple, il y a une problématique sur le Nord Grande Terre où il y a déjà trop d'énergie renouvelable qui sont produites avec les éoliens. Et en fait, où il peut avoir une perturbation d'un radar météo. Enfin, bon, ça peut devenir très technique, d'un radar météo, du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, développer des projets sur le Nord Grande Terre, en tout cas des projets éoliens, ça devient compliqué. Et donc, c'est pour ça que les porteurs de projets, ils s'orientent beaucoup vers des projets avec stockage, qui ajoute une problématique, du coup, qui est le fameux stockage, parce que ce sont des batteries qui sont utilisées.
Les batteries sont la solution pour ces énergies qui sont intermittentes. Quelque part, c'est pas tant que ça un problème, parce qu'elles sont tellement abondantes. Si on regarde l'énergie solaire qui frappe la Terre chaque jour, on pourrait alimenter la production totale de la planète pour 250 fois plus, en fait. On pourrait alimenter 250 planètes Terre avec l'utilisation actuelle d'énergie. D'ailleurs, quand on parle de ça, il y a Nicole Erdan qu'on va recevoir, Nicole Erdan de la DEAL qu'on va recevoir sur une pause café donc qui va parler du projet Horizon 2030. Donc ça va être intéressant pour compléter cet aspect de la conversation. Ce que je vais profiter de faire ici, c'est il y a eu plusieurs commentaires. Donc on a par exemple, ok, il y en a plusieurs. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Je vais les faire remonter, ok. Alors déjà il y a Alain Joséphine quand on parlait de containers. Donc Alain Joséphine qui est un artiste extraordinaire qui peint, qui joue de la musique, mais qui écrit aussi et qui est un être humain que j'apprécie particulièrement. Il dit je suis partant pour peindre les containers. Les containers pour... Et sans blague, je pense que c'est une très, 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 très bonne idée. Donc, Alain et Yasmine, on va vous mettre en contact. Cette idée ne doit pas tomber dans l'eau, là.
Pas de problème.
Bon, ben, super. Ensuite, il y a Chantal qui dit, donc, dans quelques temps, je pourrai avoir des charbons actifs pour mettre dans mon filtre à eau issu de votre technologie. Avec
absolument,
un petit clin d'œil.
En tout cas, c'est ce qu'on espère.
mais oui. Et puis Chantal disait aussi, parce que Chantal est en Bretagne, elle disait ben, pour les îles de Bretagne, c'est un projet qui pourrait être intéressant. Il y a une question que je n'arrive pas à retrouver là tout de suite, mais que j'ai vu passer. Et Yasmine, peut-être tu peux y répondre rapidement. C'est est-ce que pour un projet comme ça, c'est un financement privé ou public? Ah oui, en fait, je l'ai trouvé, je l'ai affiché à l'écran maintenant. Pour monter une unité de projet SMO, est-ce que ce sont des fonds privés ou des fonds publics ou est-ce que c'est un apport financier mixte?
Alors, si on pouvait le financer uniquement sur des fonds privés et de l'emprunt bancaire, certainement que ça ce serait une solution. Maintenant, comme je le disais, on est sur la première unité d'exploitation commerciale et le projet est confronté à ce qu'on appelle dans le secteur de l'innovation la vallée de la mort du financement. C'est-à-dire que voilà, vous êtes déjà arrivé suffisamment loin sur le développement technologique pour utiliser uniquement des fonds publics. Mmh. Et puis maintenant, il faut passer un cap pour pouvoir être sur une exploitation commerciale. Et comme ça n'a pas encore été fait, eh bien les investisseurs privés sont un
plus
peu
frileux là. Ouais.
Et le domaine bancaire est également assez frileux sur l'idée de quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, voilà, ce à quoi on travaille et ce à quoi on a travaillé pendant cette période de confinement en répondant à ces appels d'offres sur l'innovation au niveau européen, c'est d'essayer de monter ce mix entre des fonds publics, des fonds privés sur des personnes qui ont été intéressées, nous ont suivies. Et là, je salue également Humans Link, hein, puisque… À la WIC, nous avons aussi pu avoir des contacts de personnes intéressées qui ont envie d'accompagner le projet. Donc, le réseau compte. Donc, oui, il y a besoin encore de fonds privés pour au moins déjà pouvoir avoir ce premier site d'exploitation. Qui présente en tout cas pour nous un profil de rentabilité intéressant pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. On utilise des choses dépréciées et de l'énergie solaire pour produire des choses à forte valeur ajoutée. Donc, ça fait un profil de rentabilité intéressant et une fois qu'on l'aura démontré, ben, on se dit que ça va aussi nous servir de tremplin pour pouvoir installer davantage de sites et augmenter les capacités des
Mais
sites.
Oui. Alors, d'ailleurs, il y a Chantal qui dit « et une cagnotte, entre guillemets, en ligne », donc de faire du crowdfunding, du financement communautaire.
Ça fait tout à fait partie des orientations. Alors, notre inexpérience a fait qu'une première campagne de crowdfunding n'a pas vraiment eu les résultats escomptés parce que ça peut prendre différentes formes. Il peut y avoir du crowdfunding où les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont juste envie d'accompagner ou qu'ils attendent quelque chose de symbolique en retour. Mmh. Et il peut y avoir aussi des campagnes de crowdfunding où les gens prêtent de l'argent. Il peut y avoir aussi des campagnes de crowdfunding où les gens prennent des participations au capital. Et donc là, ce qui est important, c'est de bien savoir à qui on s'adresse, pourquoi, etc. Mais ce qui est certain, c'est pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, il faut déjà avoir une communauté ou des relais communautaires qui soient intéressés et qui soient là pour diffuser l'information. Et des initiatives comme celle d'aujourd'hui, si le projet vous a séduit, comme il a pu séduire, je sais, l'équipe de HumanSling, bah, ça participe à ce que ben, le moment venu où on pourrait lancer une campagne de crowdfunding, vous puissiez diffuser l'opération dans vos réseaux et faire en sorte effectivement que voilà, on puisse communiquer et mobiliser davantage de monde.
Je pense que, comme tu l'as dit, Yasmine, nous chez HumanSling, ça nous a, ce projet nous tient à cœur particulièrement. On en est convaincus pour le monde et l'humanité, et puis le fait de ça. Par définition, le fait qu'ils puissent s'adapter à nos communautés en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, ça nous touche du coup personnellement. Et donc, c'est quelque chose auquel on croit. Et effectivement, le crowdfunding et ce qu'on va donner en fait en retour s'inscrit dans une stratégie de, j'allais dire d'entreprise, mais pas nécessairement d'entreprise, mais plutôt de projet, d'organisation. Et de, effectivement, c'est intéressant, mais ça me ferait plaisir. Enfin, évidemment, Yasmine, on est en contact, donc on pourrait échanger des idées là-dessus. Je continue en fait sur les commentaires. Il y a Isabelle ici sur Facebook qui nous dit qui nous suggère de faire appel aux fondations locales, comme par exemple la Fondation Blandin ou la Fondation Ayot. Effectivement, ce sont aussi d'autres avenues. Ça peut être aussi un ensemble de partenaires, un ensemble de personnes qui vont encourager. Il y a plusieurs commentaires qui disent oui, j'aimerais beaucoup relayer l'info. Alors, je continue sur les commentaires. Il y a Arnaud Archimède ici qui nous dit « Hello, c'est un beau projet. Il est très intéressant d'imaginer que les industries locales, comme la banane et la canne, par exemple, puissent directement intégrer ces initiatives dans le cycle de vie de leurs matières premières. »
Nous sommes tout à fait ouverts à la création d'écosystèmes locaux et que tout le monde puisse trouver son compte voilà, avec les possibilités offertes par notre technologie, notamment.
Mmh. Alors, soyons un peu fous. Est-ce que Yasmine, tu peux nous parler d'un coût d'installation d'une unité en Guadeloupe ?
Alors, pour installer, en tout cas pour notre première tranche de projet, donc c'est à la fois les premières lignes opérationnelles et les coûts d'installation, on est sur une enveloppe de l'ordre de 5 millions d'euros.
OK. Voilà. 5 millions, donc 5 millions. On est combien d'habitants en Guadeloupe ? 350 ? Ça a baissé un petit peu, 480, 400 ?
90 000 à peu près.
On est moins que ça, hein, je pense, hein.
380 000
millions, ça serait comme ça. C'est récemment la barre symbolique des 400 000.
En fait, ça voudrait dire si, bon, disons 400 000, ok. Donc, il y a 80 000 personnes qui. Bon, c'est purement hypothétique et c'est vraiment pour m'amuser que je fais ça parce qu'on ne compte pas les enfants, on ne compte pas. Les moyens, etc. Mais en fait, concrètement, si on faisait 5 millions à 400 000 personnes, chacun pourrait mettre 12 euros.
De cet ordre-là, oui.
Voilà. Sachant qu'il y en a qui pourraient mettre facilement 12 000 et d'autres pourraient mettre 1,20 €. Donc, c'est à la portée. Puis, effectivement, Yasmine, tu parlais de la communauté et des partenaires comme les organisations, les communautés d'agglomération sont des partenaires aussi qui sont de taille. C'est possible. Je trouve que ce simple calcul-là, qui est extrêmement simpliste, c'est 5 millions d'euros pour une première installation. On a vu qu'il prend des produits dépréciés en matière première et qui produit à faible coût parce qu'on utilise l'énergie abondante du soleil. Qui ensuite produit des produits à forte valeur ajoutée. William, excuse-moi, je t'ai coupé, je ne voulais pas te couper la parole, tu allais dire.
Je ne sais pas si Yasmine et ses collègues, ses associés ont déjà frappé à la porte de la région Guadeloupe, mais c'est des projets, je pense, que la région peut accompagner, peut-être pas sur les fonds énergie, pour comment on dit, mais peut-être sur le côté recherche et innovation. On a aussi des financements sur la R&D.
Surtout qu'il y a des brevets qui ont été déposés.
Absolument.
Voilà. Et donc, du coup, après, tout est une question de cofinancement. C'est-à-dire que si les fonds européens, ouais, les fonds européens, si vous avez déjà eu, en grosso modo, pour expliquer un calcul, selon la taille de la structure et tout ce qui va avec, la réglementation européenne, ça va être soit 45% maximum d'aide publique ou 55%, 65%. Donc, et ce qu'on appelle aide publique, c'est des fiscalisations, ça peut être des fonds européens, ça peut être des fonds régionaux, ça peut être des fonds du ministère.
Donc,
enfin,
donc si on fait ça, William, tu es en train de nous dire qu'on diminue de 50% l'apport que chaque personne doit faire. Donc on passe, c'est plus de 12 euros par personne, les amis, c'est 6 euros par personne.
Voilà.
Pour pouvoir créer un projet énergétique en Guadeloupe qui ne produit pas juste de l'énergie, mais qui a des voilà. qui produit des produits à forte valeur ajoutée.
Ah ben, ça ne va peut-être pas forcément être 50% parce que tout va dépendre aussi. En gros, les aides publiques sont plafonnées par rapport à la rentabilité du projet. C'est-à-dire qu'un projet qui intrinsèquement est rentable par exemple les projets photovoltaïques au sol ou les projets éoliens, on considère que ce sont des projets qui sont intrinsèquement rentables en fait parce qu'il y a un tarif d'achat et tout ce qui va avec. Le porteur de projet il va chercher ses leviers financiers, bancaires ou autres, financement participatif, tout ce qu'il veut, mais la région ou les fonds européens ne vont pas financer ces projets-là. Et parce que c'est des projets qui sont déjà assez rentables d'eux-mêmes en fait, sans aide publique. L'aide publique vient pour aider des projets à se faire qui ne pourraient vraiment pas se faire sans aide publique.
Dernière question. Il y a Yolande ici qui nous dit, est-ce que le prototype est-il toujours en fonction ?
Oui, le prototype est toujours en fonction au Maroc, effectivement.
D'accord, donc c'est la preuve de concept est encore là, absolument. Encore en activité et…
Voilà,
c'est pas une idée qui a été
faite. Exploitation commerciale. Donc là, l'idée, c'est de créer le premier site d'exploitation commerciale complète.
Ouais. Ok, avec l'opportunité qui nous est présentée, nous, Guadeloupéens, de le faire, de le faire en Guadeloupe quelque part. Il y a Anthony Andre, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, qui nous dit quel est le temps de retour sur investissement.
On est sur un retour sur investissement à horizon 3-4 ans, en fait.
Okay. Mais je pense que ça pourrait changer aussi en fonction du modèle d'affaires dans lequel ça s'installe. Comme Arnaud nous disait, Arnaud Archimède sur YouTube, qui nous disait, si on imagine que ça s'intègre dans des chaînes de valeur, des chaînes de production, des industries locales, je suis convaincu que le retour sur investissement serait beaucoup, beaucoup plus rapide que ça, en fait. Donc, c'est un projet qui est fascinant. Puis, ce projet prend en compte l'économie circulaire dont William nous parlait aussi en début de Pause Café. Les amis, Pause Café, ça passe super vite. On a déjà dépassé un petit peu le temps. Il est midi 4 maintenant. Avant qu'on se quitte, William, est-ce qu'il y a un bouquin, un film ou de la musique que tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent?
Ouh là là, mon Dieu, je ne sais pas si je peux partager les livres que je lis en ce moment, donc surtout la musique, je ne pense pas que c'est pas une bonne idée. Mais un livre, oui, en ce moment, je lis Porter sa voix.
Porter sa voix.
Voilà, c'est un livre.
Est-ce que tu connais l'auteur? Je vais essayer de rapidement chercher le...
J'ai oublié, ma mémoire est tellement défaillante ces temps-ci.
C'est un bouquin.
Ouais, et en fait, c'est un bouquin qui est tiré d'un film aussi.
Ah, ok, bah super, je l'ai trouvé. Je vais vous montrer ça.
Et je l'ai lu à la fois de manière personnelle, donc c'est sur la prise de parole en public, parce que bon, c'est quelque chose qui est assez important dans la vie. C'est ce que l'auteur fait comprendre d'ailleurs dans la vie de tous les jours, en fait, ne pas hésiter à s'exprimer, que ce soit sa famille, au boulot, enfin partout, et d'avoir confiance en soi. Donc c'est beaucoup de développement personnel en fait, d'une certaine manière, la prise de parole en public ou la prise de parole tout court d'ailleurs. Et aussi je l'utilise aussi de manière professionnelle, surtout parce que je trouve qu'il y a des techniques de rhétorique qui sont, il y a quelques outils à la fin et d'argumentation, oui. Ça m'aide à penser des activités pour les stagiaires que j'aurai cette année en prépa concours attaché territorial, comme je les forme à la méthodologie de la note de synthèse et la méthodologie de la dissertation.
Ouais. Donc, William, je vois que tu perds pas de temps. Le confinement, c'est aussi une opportunité de continuer d'apprendre, continuer de se développer.
Voilà, mais tout le temps, c'est important. Et j'aime pas lire pourtant. Hein, donc si je recommande le livre, c'est que
c'est qu'il est bon. En tout cas, il t'a beaucoup plu.
Ouais, il est intéressant.
Yasmine, on a partagé en commentaire une vidéo de présentation du projet SMO pour que tous ceux qui sont intéressés à aller plus loin puissent voir les vidéos. Je sais qu'il y a des éléments qui ont été publiés dans ce sens. Également, si vous êtes intéressé à parler avec, à communiquer avec Yasmine pour aller plus loin sur réfléchir à des solutions concrètes pour mettre ce projet, permettre à ce projet de voir le jour en Guadeloupe, n'hésitez pas à nous contacter sur live@humanslink.com et ça nous fera plaisir de vous mettre en relation et de potentiellement faire en sorte que ce projet arrive en Guadeloupe plus vite que prévu. Le plus tôt sera le mieux. Et toi, d'ailleurs, Yasmine, est-ce que tu as un film qui t'a plu ou un bouquin en ce moment qui te parle?
J'ai regardé récemment le documentaire produit par Michael Moore, Planet of the Humans, qui est disponible sur YouTube. Et bien sûr, c'est provocateur, ça a suscité des levées de boucliers du mouvement écologiste aux États-Unis. Mais moi, ça m'a encore plus motivée à faire aboutir ce projet et à montrer des logiques véritablement durables dans l'approche de ce que c'est que ou de ce que peuvent être des solutions écologiques pour aujourd'hui et pour demain. Donc je vous invite à vous faire votre idée également en regardant ce documentaire.
Je te remercie Yasmine. Et c'est vrai, même si certains contenus, bouquins peuvent porter à controverse, en fait, je trouve ça toujours sain d'aller consommer de l'information avec laquelle on n'est pas forcément d'accord. Simplement pour confirmer les raisons pour lesquelles on croit ce qu'on croit, ou peut-être aussi pour se dire « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Et donc, on peut étendre nos croyances et nos modèles de réalité quelque part. Et je trouve ça très, très puissant comme manière de faire. Merci à tous les deux pour votre temps et d'avoir pris ce moment post-café que j'ai eu un sacré plaisir à partager avec vous. C'était super. Et vous aussi qui nous avez suivis en live sur Facebook et sur YouTube. Je salue aussi ceux qui vont regarder en rediffusion. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. Lâchez un petit pouce, un cœur, une réaction sur Facebook pour nous encourager et nous dire si vous avez aimé ça.
Oui, Amira, Lorraine.
Oui, les dédicaces du réseau. Alvin aussi qui était là, effectivement. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, pareil. Petit pouce bleu pour nous encourager avec l'algorithme. D'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je vous l'ai dit au début d'émission, on revient tous les jours de la semaine à 11h. Merci de votre présence. Soyez humains, soyez extraordinaires. À bientôt.